Merci, Maurice. Bon matin. C'est le fun de voir des visages. Hein? Comme on dit toujours, au lac Saint-Jean, bien, on est loin. Ça fait que des fois, on s'attend quand c'est des vacances ou des congés, des fois, d'avoir des visiteurs. Là, bien, la semaine passée, c'était le congé de la fête du travail. Ça fait que je me souviens pas si on avait vraiment des visiteurs, là. Cette semaine, on en a. Puis, il n'y a pas de congé demain, mais bon, M. Gilles qui est là. Hein, c'est le fun, Gilles, de te voir. Tu vas bien?
Oui,
je vais
bien.
Tu vas bien? Parfait.
Pour le temps, oui.
On comprend. Hein? Bienvenue, Gilles. On a des gens aussi de Saint-Hyacinthe ou pas loin de là. Hein? On vous a-tu déjà vu ici ou bien c'est la première fois? C'est la première fois. Excellent. Est-ce que vous avez de la visite des gens que vous connaissez ici dans le coin ou bien non? Ah, vous êtes en bicyclette. OK. Ça a bien été? Les jambes tiennent le coup? C'est bon. Bienvenue. D'autres gens qui nous visitent pour une première fois? Monsieur? Monsieur?
Cyril.
Cyril, OK, oui. Ben oui, Monsieur Cyril. Bienvenue. Hein? Excellent. C'est bon. Frères et sœurs, bienvenue à chacun de vous. Hein, si je vous demande quelle date qu'on est aujourd'hui, vous êtes sûrement là. Hein, des fois, quand je vais voir Mme Jeanne, bien, je lui demande, savez-vous quelle date qu'on est aujourd'hui? Hein, parce qu'elle est âgée, puis on veut voir un peu, là, est-ce qu'au niveau du temps et tout ça, où est-ce qu'elle est, là? Ça fait qu'aujourd'hui, bien, quelle date qu'on est aujourd'hui? Le 11, hein? C'est marqué, en plus, je l'ai écrit. Hein? Oui, c'est une date mémorable, dans quel sens? Le World Trade Center, hein? Les tours. C'est vrai, hein? C'est dur à oublier. Oui, aussi, oui, exact. Bien, c'est ça, je voulais un peu vous dire, là, c'est ça, pour nous, la famille Gagné, bien, c'est sûr, c'est dur aussi de ne pas se souvenir du World Trade Center. Hein? On l'a tellement vu, on le voit encore cette semaine, là, j'ai vu qu'il y avait des reportages là-dessus, puis c'est toujours, quand on regarde ça, là, ça donne des frissons. Et puis, mais bon, chez nous, bien, c'est sûr, aujourd'hui, bien, pour nous, c'est beaucoup plus la fête de notre fils qu'on veut se souvenir. C'est plus heureux, en tout cas. Hein? Étienne, qui a 27 ans aujourd'hui. Donc, un peu, bien, c'est ça, hein, pour la plupart d'entre nous, le 11 septembre, c'est le World Trade Center, mais je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui, là. C'est juste pour, hein, c'est une date importante. Puis, à travers ça, bien... Ce matin, j'avais pensé un peu, c'est sûr, hein, les dates, c'est important. Le temps, c'est important. Quand on regarde les Écritures aussi, bien, le temps, c'est important. Parce que autant le World Trade Center, c'est un moment important pour chacun de nous, bien, l'œuvre de Dieu aussi, il y a des temps importants. Puis ce matin, bien, on va regarder ça à la lumière, justement, c'est ça comme Richard a mentionné, tout à l'heure, bien, on va avoir le repas du Seigneur. C'est que ce matin, bien, j'ai pensé que un peu, on tricoterait autour du repas du Seigneur pour nous emmener justement à ce moment-là où est-ce qu'on va prendre le pain et la coupe. C'est que ce matin, bien, on va regarder un élément parce que c'est sûr, le repas du Seigneur, on pourrait parler de beaucoup d'éléments, beaucoup de points qui sortent de ça. C'est qu'on pourrait en parler pendant des semaines. Ce matin, on va regarder un point. Mais si je vous demandais ce matin, on parle de date, on parle de temps un peu, quand le repas du Seigneur est institué? Pardon? Le temps de la Pâque? OK. La Pâque? OK. Je vous vois réfléchir, là. Hein? On réfléchit, hein? C'est ça, Jésus a fait instituer le repas du Seigneur en prenant la Pâque. Hein? Il a commencé, il s'est réuni avec ses disciples. Même il dit qu'il avait vraiment hâte là, d'être avec ses disciples. Il avait hâte à ce moment-là d'être avec eux pour prendre la Pâque. Ils ont célébré la Pâque, puis après ça, là, il a institué le repas du Seigneur. Donc, c'est quelques heures, on pourrait dire, avant qu'il soit arrêté et puis mis à mort. Hein? C'est là que ça a commencé. Donc, le temps, c'est important. Les dates sont importantes. C'est sûr, ce matin, bien, on voit là que le Seigneur a institué le repas du Seigneur, il nous invite à le prendre nous aussi et puis à perpétuer, si on peut dire, ce moment-là. Donc, il était dans la chambre haute avec ses disciples pour célébrer justement la Pâque et puis par la suite instituer le repas du Seigneur. Dans 1 Corinthiens, bien, hein, on pourrait le lire, 1 Corinthiens 11, Paul qui dit, bien, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez, que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Si je vous demande quel est l'objectif de prendre le pain et la coupe, pourquoi est-ce qu'on prend le pain et la coupe? Se rappeler. C'est sûr, hein, il dit bien, faites ceci en mémoire de moi. Donc, on pourrait dire, quand on le fait, bien, on obéit une directive du Seigneur, tout simplement, qui nous dit, bien, faites ceci en mémoire de moi. Donc, on se souvient aussi, hein, on veut se souvenir d'habitude, faire quelque chose en mémoire de quelqu'un ou de quelque chose, bien, on va rappeler la signification de tout ça. Pourquoi qu'on fait ça? C'est quoi l'objectif? On ne fait pas ça pour rien. Mais en fait, regardez, c'est ça, hein, la langue, c'est toujours important, les mots, c'est toujours important parce que Paul nous dit ça. Puis là, ici, il nous dit « car ». Hein? Quand on voit ça dans une phrase, le mot « car », c'est parce que là, il est en train de reprendre ce qu'il vient de dire. Puis là, bien, il va faire un point avec ça. Là, il explique ça. Hein? « Ceci est mon corps, prenez-le, prendre la coupe, car ». Là, il dit « toutes les fois que vous faites ça, qu'est-ce qu'on fait? » Comme là, ce matin, on va annoncer. L'objectif, c'est d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, quand on prend le repas du Seigneur, bien sûr, on le fait en mémoire de ce que Jésus a fait à la croix, mais l'objectif, c'est d'annoncer. On annonce sa mort. Puis ce matin, bien, c'est ça qu'on veut regarder. La mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr, hein, des fois, quand il y a des situations, des événements, des fois, bon, les gens vont dire, bien, c'est sûr, aujourd'hui, des fois, comme prier, c'est pas très à la mode. Donc, ce qui est très à la mode, c'est plutôt dire, on va prendre une minute de silence. Ça que c'est pas dérangeant, puis on met pas de religion là-dedans, si on veut prendre le mot, là. Ça fait qu'on va prendre une minute de silence. Ça fait que faire ça en mémoire du Seigneur ce matin, c'est que c'est prendre, une minute de silence. Hein, on va se souvenir du Seigneur ce matin. On va prendre une minute de silence. Je ne pense pas que le texte dit ça. Hein? Il dit « vous annoncez ». Hein? Donc, quand on annonce quelque chose, il faut le proclamer. Hein? Le mot veut dire « proclamer », »,« déclarer publiquement ». Donc, ce matin, bien, on annonce la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr, dans nos cœurs, on peut hein, se recueillir. On peut louer le Seigneur à travers ça. On peut être reconnaissant. Mais il veut qu'on l'annonce. Donc, il y a une annonce à travers le temps qu'on prend ce matin de prendre le pain et la coupe en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, un peu ce matin, le titre de mon message, le point que je veux faire ressortir, en fait, c'est que la mort de Jésus-Christ est une rédemption. Et c'est de ça qu'on va traiter. Donc, la mort de Jésus-Christ est une rédemption. C'est sûr, ce n'est pas un mot qu'on utilise à tous les jours là, dans nos conversations. Et puis, on va regarder un petit peu qu'est-ce que le mot veut dire. Mais si on regarde à Jésus-Christ lui-même, il a annoncé la raison pour laquelle il était venu sur la terre. Par exemple, dans Marc 10, 45, qu'est-ce qu'on lit? Bien, il dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Hein, il dit le pourquoi qui est là. Des fois, quand je parle avec les gens, des fois, je leur demande pourquoi Jésus-Christ y est venu. Quel était l'objectif de venir? C'est que, bon, les gens ont toutes sortes de réponses. Mais le Seigneur lui-même, il dit, il est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et quand on parle de rédemption, bien, la rédemption implique la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est à travers sa mort que nous avons obtenu une rédemption. Ici, bien, il nous dit, hein, comme la rançon de plusieurs. C'est sûr, une rançon, bien, on comprend ça souvent, là, on voit ça dans des émissions, bien, des fois, on écoute des programmes où c'est la justice, hein. Ça fait que des fois, bien, quelqu'un est arrêté pour être libéré, bien, ça prend une rançon. Ça prend un paiement. Donc, le mot rançon ici, c'est un paiement. C'est un prix de rachat. Tu étais arrêté, tu veux être libre, bien, il faut payer cette liberté-là. Elle ne peut être acquise que par un paiement. On ne peut pas sortir là, du poste de police ou en tout cas de la cour si le paiement n'est pas fait. Le Seigneur est en train de dire ici qu'il est venu donner sa vie comme la rançon. Et on va voir ça un petit peu à travers ça. Bien, cette rançon-là nous amène à la rédemption. Et qu'est-ce que veut dire la rédemption? Bien, on dit que c'est une rançon, en fait, que l'on donne, par exemple, si on lit les Écritures, on lit des fois des écrits de différentes choses, c'est sûr, c'est donné pour la délivrance. On veut délivrer quelqu'un. Ça peut être un prisonnier, ça peut être un captif. Et c'est sûr que dans le Nouveau Testament aussi, souvent, il est utilisé pour des esclaves. Donc, on paye pour la rançon. On donne un paiement. On rejette cette personne-là. Et bien sûr, bien, quand on comprend au niveau du Seigneur Jésus-Christ, bien, cette rançon-là, bien, on va voir un peu c'est pourquoi. Hein? Il est venu à notre rescousse. Il est venu à notre délivrance. On était mal pris. L'humanité était mal pris. Et quand on lit les Écritures, bien, c'est ça qu'on voit. On était séparés de Dieu. À cause de quoi? À cause que Dieu est saint. L'humanité n'est pas capable de rencontrer les exigences de Dieu. Et le Nouveau Testament, bien, nous parle de ça. Quand on lit dans Galates, par exemple, il dit que la loi est là comme pour nous enseigner, pour nous emmener à la personne, justement, qui va nous délivrer. On n'est pas capable d'accomplir les justes exigences de Dieu. Il a fallu que quelqu'un vienne nous libérer, parce que nous étions tous coupables. On était tous séparés de Dieu. On était même des fils de colère, on n'était même pas des enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on devient un enfant de Dieu. Et ça, c'est grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Par exemple, on va regarder des passages qu'on connaît bien, mais comme je dis, l'objectif ce matin, bien, c'est de nous rappeler, c'est de nous emmener dans l'adoration, dans la reconnaissance. Donc, Colossiens 1:12 nous dit, bien, de rendre grâce au Père. Pourquoi? Bien, il dit qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Par la suite, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, en qui nous avons la rédemption, bien, c'est le Fils ici, là. On a été transportés dans le Fils, dans le royaume du Fils de son amour, et on est appelé à rendre grâce au Père pour ça. Donc, on voit l'idée ici de délivrance. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, comment on a été délivré? Bien, c'est ça, par la mort de Jésus-Christ. Par sa vie. Il a donné sa vie volontairement. Hein, souvent, quand on parle à des personnes, des fois, c'est comme si un peu, c'est ça, le Seigneur Jésus-Christ, finalement, il s'est ramassé sur une croix comme ça. Ça a donné comme ça. Mais les Écritures nous disent, bien encore là, ça faisait partie du plan de Dieu. Ça a été planifié, puis en son temps, c'est arrivé. C'est pas arrivé au hasard, puis même le Seigneur lui-même, dans Jean, dans l'Évangile de Jean, dit qu'il donne sa vie volontairement. Hein? Personne ne lui apprend sa vie. C'est lui-même qui a décidé de la donner. Et ça, ça fait partie du plan rédempteur de Dieu. Dieu est venu à notre rescousse. Il a envoyé son Fils unique pour venir subir, prendre notre place, payer pour notre condamnation, payer pour nous libérer. Par exemple, dans Ésaïe 59, 20, bien, on dit « Le titre magnifique de Rédempteur est donné à l'Éternel. » Bien sûr, annonçant prophétiquement la venue d'un Rédempteur et cela s'accomplissant par la venue de Jésus-Christ. Donc, dans Ésaïe 59, 20, ça dit « Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. » Et quand on regarde ce verset-là, on voit qu'on nous ramène au Nouveau Testament dans Romains 11, 26. Et c'est intéressant parce que dans ma version, dans Romains 11, 26, au lieu de parler du Rédempteur, on parle du Libérateur. Un Rédempteur, c'est un Libérateur. C'est quelqu'un qui vient à notre rescousse. Parce qu'on en avait grandement besoin. Et quand on regarde dans les Écritures, c'est sur le mot « rédemption », comme je dis toujours aux gens, je me fie aux gens qui connaissent ça. Moi, que ce soit le grec ou l'hébreu, je ne connais pas ça, plus que vous autres. Il y a des gens qui connaissent ça. Ça fait que ce mot-là, un peu « rédempteur » ou « rédemption », bien, il y a différents mots. Quand nous, on lit, c'est sûr, on voit le mot, mais il y a un mot qui est utilisé pour ça. Et on dit qu'en général, il y a trois mots qui parlent de ça. Et puis, on va regarder ça brièvement ce matin. Donc, un des mots utilisés, c'est le mot « agorazo », qui signifie en fait « acheter dans un marché », tout simplement. Voici ce que le dictionnaire encyclopédique de la Bible Westfall, en fait, dit sur ça. Il dit « À la différence des religions naturelles, enseignant explicitement ou laissant entendre que l'homme, par ses efforts, ses renoncements ou ses sacrifices peut se rendre la divinité favorable. » En général, un peu la religion, c'est ça. Je fais de mon mieux et j'espère que j'en ai suffisamment fait. Puis souvent, bien, nous, les humains, on est comme ça, on regarde à côté de nous puis on trouve toujours quelqu'un de pire que nous. Donc, nous, on est meilleurs que les autres. Puis le danger du croyant aussi, c'est de se croire meilleur aussi. On est comme ça. On est comme ça. Donc, la Bible, elle, par exemple, elle souligne sans cesse la double incapacité de l'homme. Hein? Une double incapacité. La première, incapacité de vouloir délibérément, incapacité d'agir efficacement. Hein, la Bible a dit là, qu'on ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas Dieu naturellement. On cherche plutôt à faire les choses qui nous intéressent. Donc, de par nous-mêmes, on ne cherche pas Dieu. Donc, ça, c'est une première incapacité. Donc, aussi, d'agir efficacement pour parvenir au salut. L'initiative du plan rédempteur appartient à Dieu seul. C'est son initiative, ce n'est pas la nôtre. À Dieu seul appartient la réalisation aussi de ce plan. Il ne nous a pas consultés. Il agit de sa propre initiative. Cette radicale impuissance de l'homme donne à la rédemption un caractère de nécessité. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Hein? Si nous-mêmes, on n'est pas intéressés, si nous-mêmes, on est perdus, on est séparés de Dieu, puis on ne fait rien pour rétablir ça, à moins que quelqu'un prenne ça en main, bien, il ne se passera rien. Et la Bible, bien, nous dit le contraire. Ou bien l'homme périra, ou bien Dieu interviendra. Dieu a voulu, en créant l'homme, que l'homme fût un être à son image et à sa ressemblance, mais l'homme est devenu pécheur et par lui-même ne peut cesser d'être pécheur. Et bien sûr, bien, c'est là le nœud du problème. Et c'est ce qu'on retrouve dans les écrits bibliques. Donc, ce que l'on constate quand on lit les Écritures, c'est que l'homme a besoin d'être racheté. Tout être humain. Et cela s'est fait par la mort de Jésus-Christ à la croix, qui a donné sa vie librement en rançon. Et on pourrait dire qu'il est lui-même, dans le fond, la rançon. La rançon, c'est une personne qui a donné sa vie, la personne de Jésus-Christ, pour nous libérer, pour venir, il est venu à notre rescousse. Donc, voici un premier mot, justement, qui nous parle d'être racheté. Regardez voir un peu qu'est-ce qu'on a ici, juste pour vous mettre la bonne affaire. Donc, le mot que je viens de vous parler, bien, on le retrouve entre autres dans l'Apocalypse 5:9. Ça dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. Et on parle là à ce moment-là, c'est du Seigneur Jésus-Christ, d'en ouvrir les sceaux. Je ne sais pas si c'est à cause de la place. Donc, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté. Donc, on voit le mot ici. Par ton sang, des hommes de toute tribu, toute langue, de tout peuple, de toute nation. Donc, on voit que l'œuvre de la rédemption, ça ne s'adresse pas juste à un groupe de personnes en particulier, hein? Il est venu donner sa vie pour que des gens de toute langue, de tout peuple, de toute nation puissent avoir accès à ce salut. Un autre mot intéressant, dans le fond, je pense que c'est un mot aussi qui devrait nous réjouir beaucoup ce matin, qui est utilisé, qui parle encore de rédemption, donc c'est un autre mot. C'est le mot « exagorazo ». Puis ce mot-là, en fait, tout à l'heure, le mot, il disait, bien, « acheter dans un marché ». Lui, ce qu'il veut dire, c'est que il signifie que Jésus-Christ a acquis les droits de propriété. Non seulement l'esclave est acheté, mais il n'est plus à vendre. Wow! On pourrait acheter quelqu'un ou dans ce temps-là, tu achètes quelque chose, tu dis va-t'en, puis gars, on ne s'en occupe plus. Ah non, il l'a acheté pour lui. Puis il ne le revendra pas. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bien, ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous, bien, c'est une assurance incroyable. On appartient à Jésus-Christ. Il a acquis nos droits. On lui appartient. On est devenu maintenant, non plus, on n'est plus des fils de colère ou des enfants de colère, on est des fils bien-aimés, des filles bien-aimées. On appartient à Jésus-Christ, et ça, c'est pour l'éternité. Donc, quand on parle de rédemption, bien, c'est pas juste de dire, bien, regarde, nous-mêmes, des fois, on pourrait dire, des fois, on va aider quelqu'un, après ça, c'est terminé, puis tout ça. Bien, lui, il est venu à notre rescousse, puis en plus, bien, il nous a pris avec lui. Il nous garde avec lui. Donc, on n'est plus à vendre. On appartient à Jésus-Christ. et ce rachat-là est accompli une fois pour toutes. Donc, le mot « rédemption » fait ressortir ce point-là important. Hein? Quand on lit ça, des fois, bien, on comprend la rédemption, c'est la mort de Jésus-Christ, tout ça, mais c'est puissant parce qu'on était acquis. On était désiré, on est voulu, et on vit dans cet amour-là que Dieu nous a procuré par la personne de Jésus-Christ. Donc, un verset qui, où ce que ce mot-là est utilisé, bien, c'est dans Galates 4:4, versets 4 à 6. Ça dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, hein, tantôt on a parlé de temps, ici on voit, Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu comme ça, dire ou il s'est proclamé quelqu'un, quand c'était accompli, dans le programme de Dieu, dans son plan rédempteur, c'est le temps, Jésus-Christ est né. Dieu a envoyé son Fils, qui est né d'une femme, qui est né sous la loi. Pourquoi? Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » On voit l'idée, encore là, qu'on a été adopté. Et cette adoption-là, bien, elle est éternelle. On appartient à Jésus-Christ. Et parce que vous êtes fils de Dieu, bien, ça dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Pourquoi qu'on peut crier « Abba, Père » à cause de l'Esprit? Mais c'est parce qu'on lui appartient. Hein, l'Esprit de son Fils qui crie dans notre cœur « Abba, Père ». Juste ce verset-là, moi, je le trouve vraiment merveilleux. Je vois un être Dieu intentionnel. Hein, il n'a pas regardé ça, puis « Ah, ben là, il faudrait bien que je fasse quelque chose. » Non, il a organisé un plan déjà, même avant l'éternité, hein, avant même que le monde fût créé, Dieu a concocté ce plan-là. Donc, c'est tellement beau. Moi, je regarde ça, puis c'est renversant. C'est rassurant. C'est bienfaisant. Quand on voit quelqu'un qui est intentionnel envers quelqu'un, qu'est-ce que ça nous fait? Ça fait du bien. Quelqu'un qui pense à nous, quelqu'un qui veut nous aider, quelqu'un qui... Hein, c'est l'intention. Ça fait toute une différence. Des fois, quelqu'un peut faire quelque chose, mais là, il n'a pas le choix, c'est parce qu'il est obligé. Ou il est forcé de nous aider, ou il est forcé. Hein, ça ne fait pas le même effet. Personne n'a forcé Dieu. Pourtant, il aurait pu nous laisser dans notre état. Il aurait pu nous laisser, regarde, vous voulez ça, c'est ce qui va vous arriver. Vous allez être séparés de moi éternellement. Malgré notre rébellion, malgré tout ça, Dieu a agi. Hein? Ça prend Dieu pour faire ça. Parce que quand on vit quelque chose, disons une difficulté ou on est en conflit avec des personnes, tout ça, est-ce qu'en général, on cherche le bien des gens? C'est dur. On va plutôt essayer peut-être de se venger ou en tout cas, on va faire toutes sortes de choses. Pourtant, Dieu, bien, il aurait eu toutes ces raisons-là, mais lui, il a décidé de venir à notre rescousse. Volontairement, malgré notre rébellion, malgré le fait qu'on ne voulait pas de lui. Il a établi un plan. Son Fils est venu quand le temps était accompli dans son plan. Jésus est arrivé. Et il est venu donner sa vie volontairement, comme la rançon de plusieurs. Il est venu payer de son propre sang. On appartient à Dieu. Nous sommes ses enfants d'adoption. Donc, je disais, on a parlé de paiement dans un marché. L'autre, on a parlé de qu'on était plus à vendre. Puis l'autre, bon, on a parlé là, quand même depuis le début, hein, le mot parle de rançon. Quand on parle de rédemption, on parle de rançon. Alors, on le retrouve-tu là? Oui, on va lire ça ici, comme ça, dans 1 Pierre. 1 Pierre 1,18, hein, c'est des versets qu'on connaît, c'est des beaux versets. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Donc, c'était quoi les choses périssables à ce moment-là qui avaient de la valeur? C'était de l'argent puis de l'or. Il dit, ce n'est pas ces choses-là que vous avez été rachetées de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alors, on voit ça dans l'Ancien Testament, là, souvent, quand le peuple ou des gens voyaient le faux, tout ça, là, ils disaient, ben gars, moi, je ne suis pas différent de nos pères. J'ai péché comme nos pères. Je ne suis pas mieux qu'eux autres. La vaine manière de vivre, on a hérité ça, malheureusement, de nos pères. Mais, comment on a été racheté par le sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, on voit l'idée un peu de racheter ici, bien, c'est par le sang précieux. La rançon, elle s'est faite par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est ça qui nous libère. Donc, on décrit Jésus comme un agneau sans défaut et sans tache. Et ici encore, on voit le plan de Dieu, hein, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Ça, là, c'est merveilleux. À cause de vous. Hein? Ça veut dire, Dieu, là, comment qu'il... C'est à quoi son intention, puis c'était... Comment qu'il nous voyait? À cause de vous. C'est à cause de vous, là, que tout ça est arrivé. Malgré le fait que, c'est ça, on était perdus. À cause de vous. C'est ça, on raconte un jour une histoire, c'est ça, c'était un pasteur qui allait au bâtiment de son église, puis il y avait un jeune qui était là, puis il y avait une cage, une vieille cage rouillée, puis il y avait des oiseaux dedans. Puis là, ben là, il s'informe au jeune, il dit, où est-ce que tu as attrapé ces oiseaux-là? Ben, il dit, je les ai attrapés dans le champ, puis là, je les ai mis dans la cage. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire avec les oiseaux? Ben, il dit, je vais jouer un petit peu avec, puis là, il dit, ben, possiblement, il dit, c'est mon chat là, qui va terminer tout ça, là. Ça fait que le pasteur, il dit, bien, il dit, moi, j'aimerais ça acheter ta cage, là, puis tes oiseaux. Il dit, je vais te donner 2 piastres pour ça. Ça fait que le jeune, il dit, ouais, il dit, vous êtes sûr, là? Il dit, je pense que vous ne faites pas un très bon marché, là. Ça ne sera pas un bon marché, là, de faire ça. Ah, il dit, moi, j'y tiens. Si tu veux, moi, je te donne encore 2 piastres. Fait qu'il dit, parfait. Il dit, je le prends, mais vous faites vraiment une mauvaise affaire. Fait que là, bien, il donne le 2 piastres. Il part avec la cage. Il s'en va en arrière du bâtiment de l'Assemblée. Puis, il ouvre la cage. Puis là, bien, les oiseaux sortent. Puis, comme la personne ici, le pasteur, c'est ça, il reprend la cage. Il retourne. Puis là, le dimanche, bien, il l'amène. Je n'ai pas emmené une cage un matin, là. J'en avais pas. Mais il amène sa cage toute vide, tout ça, puis il raconte l'histoire aux frères et sœurs. Puis c'est ça, il dit, le jeune m'avait dit, il dit, ces oiseaux-là, ils ne chantent pas, là. Mais il dit, quand je les ai laissés partir, il dit, j'ai eu l'impression de les entendre chanter. Puis il dit, j'ai eu l'impression d'entendre chanter libre. Nous sommes libres, nous sommes libérés. Puis, frères et sœurs, bien un peu, c'est pour nous, c'est la même chose. Dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix, bien, il nous a libérés. On était pris. On était sans espoir. Il fallait que quelqu'un vienne. Il fallait que quelqu'un intervienne, agisse pour nous en notre faveur. Et il est allé au-delà de ça. Il ne nous a pas juste libérés, mais il s'est approprié nos droits. On lui appartient. Puis, il ne nous donnera pas à personne. Ce salut, il est sûr, il est certain, il est fiable. Donc, frères et sœurs, ce matin, bien, on voulait, comme je dis, je voulais juste refaire, vu que c'était le repas du Seigneur, juste prendre un temps pour ça. Des fois, on prend le repas du Seigneur, puis bon, des fois, dans l'enseignement qu'on fait, bien, c'est sûr, ça ne touche pas toujours à ça. Je sais que, il y a deux semaines, notre frère, un peu, quand il a parlé de l'ancienne alliance avec la nouvelle, vraiment, c'est un beau message aussi là, de repas du Seigneur, si on peut dire. Ça fait que pourquoi pas en refaire un autre? J'ai dit, bien, on va en refaire un autre. On va se concentrer vraiment sur notre temps ce matin pour répondre à la demande du Seigneur de prendre le pain et la coupe en sa mémoire. Puis quand on fait ça, bien, on annonce sa mort. Et ce matin, bien, on veut annoncer que la mort de Jésus-Christ est une rédemption pour nous. Puis dans ça, bien, on comprend que le salut, bien, c'est quelque chose où ce que on prend conscience de notre état. Hein, parce que des fois, on parle aux gens, ils savent que Jésus est mort à la croix, mais ils ne savent pas pourquoi, puis ils ne comprennent pas pourquoi, puis ils ne voient pas leur état, ils ne voient pas que c'est pour eux. Souvent, on met tout le monde ensemble. « Ah, on est tous comme ça. » Ça fait que l'idée là-dedans aussi, c'est de faire un... Comme je disais tantôt, on peut faire un recueil, s'arrêter, puis justement voir est-ce que j'ai reconnu que Jésus-Christ est venu pour moi, personnellement. J'étais séparé de Dieu. J'étais en besoin. J'avais besoin qu'on vienne me libérer. Et c'est Jésus-Christ qui a fait ça. Et ce matin, bien, c'est ce qu'on veut souligner, c'est ce qu'on veut proclamer. Et puis, bien, jusqu'à ce qu'il revienne, bien, il nous invite à annoncer cette mort-là. On comprend que Jésus-Christ n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est Christ est venu donner sa vie, mais que Dieu l'a ressuscité aussi. Il n'est pas resté dans le tombeau, mais c'est par sa mort qu'on est sauvé. Dieu a agréé à son sacrifice en le ressuscitant. Mais c'est par sa mort qu'on est racheté. C'est par sa mort qu'on est libre. C'est par sa mort où, justement, ce matin, on peut se réjouir qu'on lui appartient. Nous sommes des fils et des filles d'adoption. Et puis, on n'est plus à vendre. Dieu ne nous lâchera pas. Nous avons une assurance. Et on peut se réjouir et proclamer ça ce matin. Ce frère et sœur, bien, je vais inviter notre frère Richard. Je pense que tu avais d'autres chants. Est-ce que tu avais d'autres chants pour ça? Ça va être des chants, je crois, là, qui vont nous parler du repas du Seigneur, d'une façon, de la personne, de l'œuvre de Jésus-Christ. Puis, par la suite, bien, on prendra un temps à travers ça aussi pour louer le Seigneur. Ça fait que Richard, si tu veux venir...